9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, alors je voulais appeler l'émission à votre souplesse. Je me suis ravisé ce matin puisque mon invité c'est Grégoire. Bonjour Grégoire.
Salut, ça va Philippe?
Voilà, ça va bien. On vous connaît sous le nom de Major Mouvement depuis plus de 2017 maintenant. Hein.
2018.
2018, tout augmente. Donc vous êtes kinésithérapeute, vous êtes enseignant en thérapie manuelle et vous êtes passionné de vulgarisation médicale. Et aujourd'hui, vous êtes, on va dire, le personnel de santé le plus influent sur YouTube.
En tout cas, j'ai une vraie passion pour raconter mon métier. Et c'est vrai que YouTube, c'est une bonne plateforme pour ça.
Mais c'est vrai, aujourd'hui, vous avez été distingué comme le professionnel de santé. Alors, vous êtes quelques-uns, les personnels de santé de YouTube.
Je pense qu'en fait, le Covid a changé beaucoup, beaucoup de choses et les professionnels de santé ont décidé de se lancer sur les réseaux sociaux pour essayer de faire passer des informations. Et c'est vrai que le métier de kiné, avec tous les exercices qu'on peut donner pour faire à la maison, c'était une plateforme parfaite. Mmh. Et j'en profite pour te remercier. Tu sais, c'est aujourd'hui que mon nouveau livre sort.
Je sais, ouais. Je me suis battu pour que vous soyez là.
Tu rigoles, c'est moi qui ai dit je veux aller chez Philippe dès le départ. C'est si tu te rappelles.
Mais je sais.
Lors du premier livre, tu m'avais accueilli. On avait passé un super bon moment.
Ouais.
Et les retours des auditeurs que je salue et que je remercie, s'ils sont encore là, avaient été génial sur les réseaux sociaux.
Les Toulousains sont en force, comme on dit.
Je sais pas. En tout cas, tes auditeurs, ils sont cool.
Ouais.
Du coup, j'en profite pour vous dire merci. Ça me tenait à cœur, tu vois, aujourd'hui de commencer pour vous dire merci.
Champion du monde. Mais moi, j'étais super content. Je trouve qu'effectivement, faire la rentrée aujourd'hui, c'est avec toi, c'est important. Mais surtout que ton premier livre avait été un phénomène d'édition, mais c'était une surprise quand même. Parce que les livres médicaux, ça marche, mais c'est quand même pas une explosion.
J'avoue que j'ai pas énormément de points de comparaison, mais je pense qu'il y a eu un alignement des planètes. Tu te rends compte, pour remettre les choses dans le temps, mon livre, il est sorti entre confinement numéro 1, confinement numéro 2. Moi, j'avais commencé à l'écrire avant même qu'on entende parler du Covid. Mmh. Et mon livre, ça porte sur quoi ? Soignez vos douleurs à la maison. Au moment où le monde entier est touché par une pandémie. Donc, il y a eu, je pense, à la fois une grande demande, un timing de dingue. Et je me suis dit, en fait, moi, ma philosophie depuis le départ dans mon métier de kiné, c'est on peut traiter le corps humain avec des choses simples. Et mon premier livre, 10 clés pour un corps en bonne santé, c'était ça.
Ouais.
Comment est-ce qu'on peut entretenir des douleurs de dos quand on est à la maison? Comment est-ce qu'on peut perdre du poids? Comment est-ce qu'on peut traiter une tendinite? Il y avait eu un vrai sujet là-dessus. Et en fait, j'ai eu la sensation qu'il y avait une forte demande de la part des gens pour se soigner naturellement avec des choses simples qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves.
Oui, ça a marché aussi parce que vous êtes arrivé avec un certain nombre d'idées reçues que vous avez, voler en éclats, notamment sur la tendinite, sur les maux de dos. Mmh. Et donc, ça changeait un petit peu des vieilles écoles, de tout ce qu'on nous avait dit depuis toujours, notamment des s'immobiliser. On parlait notamment du torticolis, est-ce qu'il fallait mettre une minerve ou pas, enfin, plein de choses.
Exactement, en fait, les connaissances sur la douleur, les connaissances sur les articulations ont énormément évolué ces 50 dernières années. Et tout à l'heure, je te disais, c'est à moi que tu dis vous, Philippe ?
Ouais.
Tout à l'heure.
Ouais, non, c'est parce que moi, je suis...
Ça la fout mal si moi, je te dis tu.
Non, je vais dire tu. J'ai dit tu, mais c'est vrai que la convention, c'est qu'à la radio, on se dit vous.
Pardon,
genre, voilà.
Pardon.
Mais alors, vas-y, on y va, on se dit tu. Toulousains, on peut. Ouais.
Mais tu vois, il y a ce truc où ces informations, nous, en tant que pro de santé, on sait qu'elles ont évolué à la lumière des études scientifiques depuis 30 à 40 piges. La seule chose, c'est qu'on n'a pas forcément. On s'est pas forcément lancé sur les gros canaux de communication pour casser ces idées reçues. Et tu sais, c'est pour ça que j'avais autant apprécié de discuter avec toi. C'est que quand je te donnais ces informations, tu disais, ah ouais, cool, Greg, ça m'intéresse. Alors que parfois, ça peut m'arriver, je dis un truc, puis parfois, à des gens, ils l'entendent pas, en fait. Ils l'entendent pas parce qu'ils ont tellement d'idées reçues. On m'a toujours dit qu'il fallait ne pas bouger sur un lumbago. On m'a toujours dit que le dos fallait surtout pas se pencher en avant. Du coup, je ne le fais plus. J'ai mal et j'arrive pas à m'en sortir.
Il y a quelque chose qui nous rapproche, c'est qu'on a pratiqué le rugby. Mmh. Moi, je me souviens au rugby que quand on nous disait qu'on avait une tendinite, rien que l'idée de m'arrêter 3 semaines, je l'entendais pas.
Ouais, ouais.
Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des infiltrations et j'allais courir. Mmh. Quand on se luxait l'épaule, pareil. On s'arrêtait pas 3 semaines. On jouait. Donc, on était toujours en mouvement finalement.
Alors, le rugby, c'est pas forcément le meilleur exemple en termes de sport santé. Hein?
Oui.
C'est un secret pour personne.
Pour les quadriceps, si.
Tu n'es pas qu'un quadriceps, Philippe. Tu es bien plus que ça.
Ouais.
Mais le rugby, c'est pas un exemple pour le sport santé, surtout quand on commence à parler d'infiltration, de compétition et tout. Je pense qu'il faut quand même comprendre.
Il y a 30 ans, c'est ce qu'on faisait.
Oui,
sur
mais
les
c'est pas parce qu'on faisait des trucs il y a 30 ans que c'est vrai aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que Souvent, on a tendance à ériger le sport de haut niveau comme une sorte de chose qu'il faut faire. Non, le sportif de haut niveau, c'est un contexte très particulier. Ça n'est pas du sport santé. Puisque c'est être prêt pour une échéance qui correspond à un calendrier sportif. Mmh. Et parfois, l'erreur qu'on peut avoir, c'est qu'on regarde ça dans nos télés, on se dit « Ah putain, tel joueur a fait ça, il faut que je fasse la même chose, parce que forcément, si c'est lui le meilleur, moi je veux le meilleur pour moi. Mmh. » Bah en fait, si tu conduis une Citroën C3 Cactus, on va pas te mettre un moteur de Formule 1 et tu vas pas avoir l'entretien d'une Formule 1. Et en vrai, si jamais on te met un moteur de Formule 1, il y a de fortes chances pour que tu finisses dans le mur quand tu vas essayer de faire ton créneau le matin.
Ça sent le vécu, la Citroën C3 Cactus, parce que l'exemple est tellement recherché.
J'ai les petits bumpers noirs sur le côté, parce que j'en ai marre qu'on m'ouvre la portière dans les portes.
Le nouveau livre s'appelle « Le grand guide majeur mouvement pour soigner vos douleurs ». C'est aux éditions Marabout. Alors, c'est quoi le grand guide exactement ?
Le grand guide pour soigner vos douleurs, donc il sort aujourd'hui, c'est que si le premier livre permettait de comprendre ce que c'était un corps en bonne santé, ok, perte de poids, posture, machin et tout, celui-ci, il est concret. C'est une boîte à outils. C'est un couteau suisse. C'est-à-dire que si t'as une tendinite du genou, c'est pas pareil qu'une tendinite d'Achille, qui est pas pareil qu'une tendinite du moyen fessier. La tendinite d'Achille, on va la retrouver principalement chez des populations de coureurs de 30 à 50 ans. La tendinite du moyen fessier, on va plutôt les retrouver chez les gens qui sont en surpoids, avec un petit peu d'arthrose, qui ont plutôt entre 50 et 70 ans. Donc le principe de la pathologie est le même, mais les modalités de traitement ne sont pas les mêmes. La hernie discale cervicale, c'est la même chose qu'une hernie discale lombaire. Et pourtant, c'est pas le même mode de traitement. Et j'irai même plus loin. Certaines hernies discales vont être améliorées par le travail en extension, quand tu amènes la tête en arrière ou le dos en arrière, tandis que d'autres vont être améliorées par le travail en flexion. Ce grand guide, c'est être capable de mettre un visage sur ta douleur. Je te pose des questions, il y a un arbre décisionnel dans
mon livre. C'est un livre interactif, donc
exactement.
Voilà.
Exactement. Ouais. Et du coup, tu comprends à chaque fois, à la fois, tu rentres un peu dans ma tête. Et ça, je le schématise par des schémas explicatifs. Est-ce que t'as plus mal quand t'es assis pendant longtemps ? Est-ce que ta douleur, c'est plutôt une barre horizontale ? Est-ce que cette barre horizontale, elle est associée à des douleurs la nuit ? Ah ! Si c'est des douleurs la nuit, je te conseille d'aller consulter. Si ça n'a pas de douleur la nuit, et si le matin, t'as un verrouillage matinal qui dure moins d'une demi-heure, ça ressemble à quelque chose de mécanique. Mécanique, ça va bien répondre au mouvement. Et c'est ce mouvement-là. Est-ce que quand tu le fais, c'est mieux ? Cool, on va aller dans cette direction. Et c'est ce mouvement-là, c'est moins bien ? Ok, pour l'instant, ton dos, il le tolère pas bien, mais on va continuer à avancer.
En fait, l'arbre décisionnel, c'est ça qui permet finalement de vous conduire jusqu'à ce que vous devez faire à peu près.
Exactement. Il y a 8 arbres décisionnels pour le mal de dos, pour les douleurs cervicales, pour les douleurs d'épaule, pour les douleurs de membres supérieurs, coudes, poignets, mains, pour les hanches et le bassin, pour les genoux, chevilles et pieds, pour les chocs. Si jamais t'as une entorse, une déchirure musculaire, une fracture, qu'est-ce que tu dois faire ? Évidemment. Si t'as une fracture, tu vas pas ouvrir mon bouquin, mais juste t'explique comment tu vas bien cicatriser une fracture. Et aussi pour les maladies des seniors, des femmes enceintes et des juniors. Et donc en fait, ce bouquin, tu imagines, quand je l'ai écrit, j'ai imaginé un truc que t'as dans ton placard à pharmacie, et t'as un symptôme, et tu dis, ok, j'ai pris mon rendez-vous, mais mon rendez-vous chez le médecin, il est pour dans 3 jours, j'ai envie d'avoir un peu d'infos. Qu'est-ce qu'il me raconte ce kiné à bretelles ? Et je te l'explique.
Enfin, de moins en moins, il a de bretelles.
Ah, je les ai oubliés ce matin. C'est
il est de plus en plus torsenus qui explique que les vidéos cartonnent, ce sont des vieux trucs appliqués sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai.
Bah, ça fonctionne.
Ça y est pour beaucoup, pour votre succès.
En tout cas, je dirais que je désinhibe le corps, je sais comment il fonctionne, on est tous foutus pareil, et autant être torsenus, ça marche mieux.
Bien, alors ensuite, il y a la partie traitement, une fois qu'il y a la partie diagnostic qui est faite, et donc là aussi, vous proposez plusieurs alternatives de traitement.
Évidemment, alors sur la partie diagnostic, je l'explique bien, on est dans le cadre d'un bouquin, je suis pro de santé, le diagnostic est posé par un médecin, mais au moins je jalonne le truc pour savoir quand il faut consulter, quand ça a l'air d'être bénin ou quand c'est une urgence absolue. Pour la partie traitement, en effet, il y a à chaque fois 3 types de traitements. Le premier que j'ai appelé le game changer, vraiment le truc qui change la donne rapidement. Soit ça va être une explication typiquement sur l'arthrose, un cas typique de gens qui souffrent d'arthrose, c'est « Ok, j'ai de l'arthrose, faut que j'arrête de bouger. » Non, quand t'as de l'arthrose, ce qui fonctionne, c'est d'éviter les montagnes russes. Je bouge pas du tout pendant 3 jours, au contraire, j'ai fait une randonnée, j'ai marché 4 km, j'ai mal partout. Non, en fait, ton corps, il a besoin de régularité quand t'as de l'arthrose. Donc le game changer, c'est cette info-là, si tu te l'appropries pour tes pathologies, ça va aller mieux. Parfois, ça va être un mouvement, parfois, ça va être une explication, parfois, ça va être un renforcement. Ensuite, il y a une partie pour se détendre. Parce que je sais que certains n'aiment pas bouger. Je le sais, je le vis tous les jours sur le terrain en tant que kiné depuis 12 ans. Il y a des gens, ils ont mal, ils ne veulent pas bouger. Dans leur construction, ils ont compris qu'ils sont mieux à ne pas bouger. Et ben pour eux, j'ai des solutions. Ils sont plutôt des solutions à court terme, mais pour se détendre. Mais en même temps, toi comme moi, ça nous est déjà arrivé d'avoir un mal de tête. Quand t'as mal à la tête et que t'as besoin de bosser, tu prends un cachet et ça va mieux. On va pas en faire tout un fond. Donc, pour détendre, un massage, un étirement, un automassage, ça marche assez bien, la réponse est rapide. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pour reconstruire. Ok, on a identifié ton problème. Tout à l'heure, j'ai dit, allez, une tendinite d'épaule. Une tendinite d'épaule, est-ce que ça vient d'une névralgie cervico-brachiale? Je t'explique comment tu peux savoir si ça vient des cervicales ou si ça vient vraiment de l'épaule. Si ça vient de tes tendons de la coiffe des rotateurs, quel mouvement tu peux faire? Et ainsi de suite pour aller mieux et à quel moment il est nécessaire de consulter.
Bien. Alors, pour qu'on comprenne bien, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, par exemple, qui trimballent un mal de dos depuis des années.
Beaucoup, beaucoup de taxis. De chauffeurs qui m'avaient, tu sais, parfois j'ai beaucoup de déplacements à faire dans la journée et je prends ce type de transport et ils t'écoutent et du coup d'ailleurs j'en profite pour leur passer le bonjour et qui me disent mais moi je suis taxi, je suis assis entre 16 et 18 heures par jour, qu'est-ce que je dois faire? Mon petit conseil, c'est choisissez le confort de l'assise. Choisissez pas forcément tout de suite le modèle de la voiture, choisissez le confort de l'assise. Si jamais vous avez déjà une bagnole et dans laquelle vous êtes pas confortable, vous avez la possibilité, avec une bouteille d'eau, avec une serviette, de modifier la courbure de votre dos juste pour avoir quelque chose dans lequel vous êtes plus confortable. Pour certains d'entre vous, ça va être de mettre une serviette enroulée, une bouteille d'eau dans le bas du dos parce que vous serez plus confortable en extension. Pour d'autres, ça va être au contraire d'être plus penché en avant. Pour d'autres, ça va être d'avoir un siège plus élevé. Vraiment, prenez ce temps-là de voir ce qui est le plus confortable. Ensuite, une fois que vous êtes assis, vous avez la possibilité de bouger. Bouger le bassin dans un sens et dans l'autre. Vous retrouverez tout ça sur mes vidéos YouTube, comment bouger le bassin et ainsi de suite. Okay ? Et puis, si jamais il y a un mal de dos qui s'est installé, c'est là où mon bouquin peut vous aider. Est-ce qu'il y a un nerf sciatique qui est un peu irrité ? Quels sont les mouvements qu'on peut faire pour le nerf sciatique ? Est-ce que vous avez une douleur qui devient vraiment invalidante ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Est-ce que c'est ok ? Je sais que beaucoup de chauffeurs, je prends cet exemple parce qu'il est très parlant, on parle des chauffeurs, mais
chauffeurs de taxi, ambulanciers,
ou même des gens,
chauffeurs livreurs,
ou même des gens qui seraient assis toute la journée au boulot et qui auraient un métier sédentaire, tu vois ? Est-ce que c'est ok juste de se faire 3 heures de foot le samedi, le dimanche, alors que t'es assis toute la journée ? Oui. Parce que la grosse photo, c'est finalement ton cœur, ton cerveau, tes poumons. 3 heures d'activité, peut-être un peu plus intense le samedi, valent mieux que rien du tout. Si jamais tu arrives à trouver le temps, et c'est pas facile quand tu t'es tapé 16 à 18 heures de boulot, d'aller marcher 20 à une demi-heure, ouais, c'est pas facile. Bah, peut-être que ça peut être le moment où tu prends ton épouse, tes gamins, et tu dis, allez, on va faire une marche avec papa, maman. Ouais. Et juste, tu te trouves un moment social où tu bouges un peu. C'est pas complètement idiot, ça fonctionne ça.
Quel est le raisonnement clinique que tu appliques quand quelqu'un vient te voir ?
Ah, elle est géniale cette question.
C'est la base.
Mon raisonnement clinique, c'est d'abord on élimine ce qui pue du cul. En gros, je veux m'assurer.
Qu'on appelle les drapeaux rouges.
Ça, on les connaît. C'est pour les schématiser, c'est tintive. C'est mon premier chapitre de
c'est
mon
tintive. Tintive, donc c'est mnémotechnique.
Exactement. T-I-N-T-I-V. Traumatique, infectieux, neurologique, vasculaire, inflammatoire et tumoral. Je l'explique dans mon bouquin, j'ai fait une vidéo, vous pourrez retaper drapeau rouge sur YouTube, majeur mouvement, et je vais vous expliquer en 5 minutes quels sont ces signes qui méritent vraiment d'aller consulter de manière urgente ou non, mais qui nécessitent un avis médical.
Faut pas attendre que ça passe.
Ça va pas passer. Ça veut pas dire que vous allez crever, hein. Ça veut dire que là, votre problématique nécessite un avis médical et un traitement médical. Comme je le répète toujours, je suis kiné et je propose des solutions simples. Les solutions simples, elles marchent pour des problématiques simples. Ce raisonnement clinique, c'est d'abord éliminer les trucs qui puent du cul. Une fois qu'on élimine les trucs qui puent du cul, on peut être déjà rassuré. L'erreur qui se passe régulièrement, c'est que moi, ce que je dis, on élimine les trucs qui puent du cul et ensuite, on va partir que ton problème, il est simple. Si jamais on part du problème que ton problème est simple, on va mettre en place une solution simple. Et c'est seulement si la solution simple ne fonctionne pas qu'on va partir du principe que ton problème est peut-être un petit peu plus compliqué que ça.
Et on commence pas, c'est pour expliquer, c'est qu'on commence pas par ce qui est compliqué.
Exactement. Parce que quand on commence par ce qui est compliqué et qu'on apporte une solution compliquée et que ça ne fonctionne pas, les gens se disent quoi ? Ah ben mon problème est encore plus compliqué. Et là, ils commencent à flipper.
Et il y a une punchline hein, sur les spécialistes. Le spécialiste est celui qui sait de plus en plus de choses sur un domaine de plus en plus restreint jusqu'à tout savoir sur rien.
Exactement. Et tu sais, moi, je m'entoure de beaucoup de spécialistes et eux-mêmes, ils me disent, tu sais, ce qui est difficile, Grégoire, c'est que quand les gens viennent nous voir, souvent, ils viennent nous voir en fin de parcours et si nous, on ne trouve pas, ils ont l'impression d'être des causes perdues. Or, en fait, il faut comprendre qu'un spécialiste, son job, c'est... Là, je te vois, bon, les gens ne nous voient pas, mais t'as tes oreillettes, t'as tes cheveux longs et t'as un pull vert. Le spécialiste, lui, ne voit que le pull vert. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de felon, ça ne veut pas dire
que
tu as...
Non, mais c'est fait pour, d'ailleurs. On fait diversion.
Mais en fait, le spécialiste, il voit que ce pourquoi il est formé. Et moi, ma spécialité, c'est d'être généraliste. Je comprends bien les choses simples. Si c'est compliqué, j'ai un bon carnet d'adresses et je vais vous réorienter. Mais commençons par soigner les choses simples, et c'est seulement si les choses simples ne trouvent pas de solution qu'on va penser que c'est compliqué et pas l'inverse.
On prend un exemple sur le mal de dos.
Ouais.
Alors, on dit pas le mal de dos, c'est quelque chose que tu mets systématiquement au pluriel, toi.
Oui, les maux de dos, bien sûr. Un, on est tous différents. L'erreur qu'on pourrait avoir tendance à dire, et les médias se sont vraiment jetés sur ce truc, c'est un problème de posture. Franchement, si c'était seulement un problème de posture, on aurait réglé le problème depuis longtemps, non? Tu vois, ce serait comme de dire, en vrai, il suffit juste de se tenir droit pour pas avoir mal au dos. Mmh. Ok, bah les gens ont encore mal au dos, ils se tiennent droit, c'est quoi le bordel? En fait, la posture, de ce qu'on sait aujourd'hui, on a beaucoup d'études scientifiques qui sont là-dessus, pas de lien entre la mauvaise posture et le mal de dos. Ah! Il est où le bordel alors? Le bordel, c'est qu'en fait, la posture, c'est juste la conséquence d'être assis 8 heures par jour. Et là, c'est plus la même limonade. En fait, le problème, c'est d'être assis 8 heures par jour, et le fait d'être assis 8 heures par jour fait qu'en effet, au bout d'un moment, on va se mettre dans une position qui est plus confortable. Et c'est ok en fait. On va juste pas dépenser beaucoup d'énergie pour se tenir droit alors que ça n'a pas d'intérêt, notre corps est pas con. Donc en fait le problème c'est plutôt notre manque de variété de mouvements qui nous emmène des douleurs. Ok. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des pathologies associées. Si à un moment donné t'as eu une fracture vertébrale sur un plateau de rugby et que t'as pas fait de rééducation, il est possible que ton corps il ait perdu la capacité de bouger, qu'il ait envoyé des messages douloureux et ton mal de dos sera pas le même que moi si jamais par exemple moi au contraire j'ai un dos qui est trop souple. Et c'est pour ça que je trouve ça fascinant, et moi ça fait 12 ans que je suis là-dedans, j'enseigne, c'est d'expliquer qu'il n'existe pas un mal de dos, mais des maux de dos. Et c'est pour ça que dans mon bouquin, je te pose des questions, en fait, mais vraiment au lecteur, en fait.
Moi j'adore la technique de l'animal.
Ouais.
On verra tout à l'heure ce que c'est, la technique de l'animal. On verra comment vous, tu l'écris. Mais c'est important parce que quand on dit j'ai mal au dos, il faut préciser la douleur, et on verra justement tout à l'heure comment... préciser cette douleur. Je rappelle que Major Mouvement est avec nous. Si vous voulez poser des questions à Grégoire, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, donc vous le connaissez tous sous le nom de Major Mouvement. Il publie aujourd'hui son deuxième livre, s'appelle Le Grand Guide Major Mouvement pour soigner vos douleurs, aux éditions Marabout. On était en train de voir les étapes finalement aujourd'hui pour aboutir à un diagnostic précis. Tu commences par ce qui est simple et ensuite, parce que quand quelqu'un dit j'ai mal au dos, est-ce qu'il sait précisément où il a mal au dos et où elle est la douleur?
Non. En fait, le dos, c'est le parent pauvre de l'information de notre corps. Déjà, la douleur n'est pas une information fiable. Si vous voulez, le meilleur exemple, c'est le goût. Si je te donne une orange, ce que tu ressentiras dans ton palais, c'est pas ce que je ressentirai dans mon palais. Y compris si on se roule des pelles. C'est pas prévu, mais c'est dire que on n'a pas les mêmes sensations, je te vois.
Et dans la vie, quand vous êtes animateur, c'est ce qu'on appelle des grands moments de solitude radiophonique.
Je savais que j'allais l'avoir avec cette métaphore.
Ah. Non.
Et au niveau du dos.
On va rester sur la cactus. Donc l'orange.
L'orange, en fait, au niveau du dos, on n'a pas tous les mêmes sensations. Et du coup, par contre, on est capable de mettre dans de grandes familles, en fonction des visages de la douleur, des hypothèses de diagnostic. Je parle bien d'hypothèses. Avec 12 ans de pratique, je ne crois pas dans la notion de diagnostic. Je crois dans la notion d'hypothèse de diagnostic. C'est le traitement qui confirme un diagnostic. Écoutez, c'est passionnant. En fait, la douleur peut porter tellement de visages qu'aujourd'hui, quand un patient vient me voir, et c'est ce que j'explique dans le livre, il va me décrire une douleur un peu type, en fonction de son âge, de ses antécédents, de la localisation de sa douleur. Est-ce que c'est un point? Est-ce que c'est une barre? Est-ce que cette barre est verticale? Est-ce qu'elle est horizontale? Est-ce qu'elle est lorsqu'il passe de la position assise à debout? Est-ce qu'il est, elle est quand il se retourne dans le lit? Est-ce que c'est quand il est assis pendant longtemps, debout pendant longtemps? Est-ce que c'est à l'effort? Est-ce que c'est au repos? Qu'est-ce qui diminue cette douleur? Qu'est-ce qui l'augmente cette douleur? Ok. Bah ça, en fait, ces questions, ça me permet de mettre le mal de dos dans différentes familles. Par ordre de probabilité. Statistiquement, je sais que si jamais vous prenez votre âge chez des populations qui n'ont pas mal au dos, c'est la probabilité que vous ayez une hernie discale. Vous avez 50 ans et même si vous n'avez pas mal au dos, si on vous passe une IRM, on trouvera dans 50% des cas une hernie discale, y compris si vous n'avez pas mal au dos.
Et alors là, ça, effectivement, ça pose plein de questions sur la hernie discale.
Et sur la hernie discale et sur la douleur. Donc en fait, moi, quand quelqu'un...
Une hernie discale ne fait pas forcément mal.
Exactement. Et vous pouvez très bien avoir des gens qui ont des douleurs horribles, type hernie discale, tu leur passes une IRM et il n'y a que dalle. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit ?
Sciatique.
On leur dit la douleur est dans votre tête.
Mais ce qui n'est pas faux.
Mais tout est dans la tête. Tout. La douleur, la vue, le goût, tout est dans la tête. La seule erreur qu'on a quand on dit le mal, la douleur est dans votre tête, c'est que les gens disent « mais je suis pas fou, je l'invente pas ». Non, c'est juste qu'en fait, une IRM ne montre pas la douleur. Une IRM, c'est une photo à un instant T de l'architecture de votre dos. Ça ne montre pas la douleur. La douleur est générée à 100% par le cerveau. La douleur peut être générée en fonction de ce qui se passe dans le dos. Et parfois oui, et parfois non. C'est plus complexe que ça. Et c'est pour ça que la notion de diagnostic « j'ai mal parce que j'ai une hernie discale »,« j'ai mal parce que j'ai une arthrose » est fausse. Ce à quoi on doit se fier, c'est la clinique. Qu'est-ce que vous ressentez ? Et c'est pour ça que dans ma réflexion, c'est d'abord on élimine ce qui pue du cul. Si jamais tu viens de tomber et que tu as une fracture vertébrale, on va d'abord passer une IRM, on va d'abord passer une radio et te donner le traitement. Mais si jamais on élimine ce qui pue du cul, on va t'écouter, on va regarder un peu ce qui se passe.
Ouais.
Ok, maintenant, une fois qu'on regarde un peu à quoi ressemble ta douleur, on va essayer de voir ce qui l'augmente, ce qui la diminue. Et devine quoi ? On va aller dans le sens de ce qui la diminue et on va éviter ce qui l'augmente. Et c'est pour ça que cette notion de essai-erreur, elle est fondamentale. En fait, juste, qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui fait que ton dos est amélioré ? Et c'est pour ça que c'est passionnant. En fait, dans le livre, je
c'est pas à pas, c'est ça qu'il faut comprendre.
Pas à pas.
Voilà, c'est on tâtonne.
On tâtonne et on fonctionne par ordre de probabilité. C'est beaucoup plus probable quand t'as 50 ans que t'aies une douleur type discale et une douleur type discale, dans 75% des cas est plutôt améliorée par un schéma d'extension et dans 25% des cas plutôt améliorée par un schéma de flexion. En gros, si t'as une hernie discale, un tableau discal, t'auras plutôt tendance à être amélioré quand tu te penches en arrière.
Ouais.
Mais pour 25% des cas, ça va plutôt les aggraver, ils seront améliorés par la flexion. Et pour une partie d'eux, ils seront et aggravé par l'extension, et aggravé par la flexion, auquel cas, pour eux, c'est peut-être plus intéressant de prendre un médicament. Tout ça, je l'explique dans le bouquin. Vraiment pas à pas. Et pour certains d'entre eux, ils seront améliorés et par l'extension, et par la flexion. Et c'est là où tu comprends que, en fait, la santé, le corps, le dos, c'est pas une recette. Ce serait trop beau que ce soit une recette. Vous avez mal au dos, faites ça, ça marche pas, c'est bullshit. Celui qui dit ça, soit il a rien compris, soit c'est un menteur. On doit avancer étape par étape, individu par individu, et ça, on peut fonctionner avec ce que j'appelle le raisonnement clinique. J'ai rien inventé, hein. J'ai juste vulgarisé un truc qu'on utilise en santé depuis 60 piges. Et même depuis 2000 ans, je pense.
Alors, quel est le lien avec son animal, je sais pas si on dit totem ou son animal et la douleur qu'on ressent, par exemple?
J'ai utilisé cette métaphore pour dire, si jamais je joue souvent avec à ce jeu-là avec mes enfants dans la voiture. Ok, papa pense à un animal, vous devez essayer de le retrouver. Mes enfants, ils ont 3 et 7 ans et tu sais ce qu'ils font? Ils disent « Papa, c'est un dauphin ? Papa, c'est une mangouste ? Papa, c'est un chien ?» En fait, tu dois organiser tes questions. Est-ce que c'est un mammifère ? Est-ce qu'il vit dans l'eau ? Ok. S'il vit dans l'eau, tu le découpes par famille, en fait. S'il vit dans l'eau, est-ce qu'il est gros ? Est-ce qu'il est petit ? Est-ce qu'il a des nageoires ? Est-ce que c'est un poule ? Enfin, est-ce qu'il a des tentacules ? Et en fait, en divisant tes questions par famille, t'arrives juste avec un raisonnement beaucoup plus facile pour dire « Ok, bah, ce que vous avez, c'était un dauphin. » Et c'est ce que j'explique dans le premier chapitre. En fait, quand tu parles de douleur, pour utiliser ce raisonnement, tu vas utiliser cette même logique. En fait, je te pose des grandes questions familiales qui me permettent en une question de savoir si c'est plutôt un dauphin ou si c'est plutôt un rhinocéros. Ok, est-ce que t'as mal le matin pendant plus de 2 heures, ça te réveille la nuit et t'as du mal à te rendormir? Ok, bah ça ressemble à quelque chose de plutôt inflammatoire, auquel cas la réponse elle sera probablement de l'ordre du médical, avec un médicament, peut-être avec un avis médical. Est-ce que quand tu as des douleurs, c'est plutôt lorsque tu as fait 1h30 de foot et ta douleur, elle est plutôt au niveau des épaules et dans le bas du dos et c'est calmé par le repos, ça a l'air d'être mécanique. Ok, si c'est mécanique, tu vas bien répondre aux étirements et aux renforcements. Ok, c'est quoi ton sport ? Bah mon sport, c'est le trail. Ok, bah probablement qu'on va regarder un peu quel type de terrain tu cours, comment tu t'entraînes, est-ce que tu as fait des exercices de gainage ou des exercices de renforcement pour répondre au trail, ou est-ce que c'est le football et tu as plus de chances d'avoir une pubalgie ? Et en fait, tu vois, quand tu mets les choses par famille avec des mots simples que les gens connaissent, ça permet de mieux identifier ces douleurs et non pas de se dire que l'animal auquel tu pensais, c'était un suricate des Carpates qui en voie d'extinction depuis 25 ans et un truc improbable.
Alors, en cas de douleur, on consulte qui en première intention ?
Un médecin généraliste. La réponse est simple, hein. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'explique toujours, je suis kiné, je connais mon champ de compétence, c'est le musculo-squelettique. Mais quelqu'un qui a une douleur, bah d'abord, doit s'assurer avec quelqu'un qui est compétent, un médecin généraliste, de s'assurer que c'est pas autre chose. Quand le médecin généraliste dit, ok, bah en fait, vous avez aucun signe de gravité, bah vous allez voir un kiné, un coach sportif, un coach en APA, un ostéo qui va vous faire du bien, ok. Mais d'abord, il faut un avis médical, à mon sens. Après, ça va dépendre, évidemment, si c'est une petite douleur bénigne qui dure depuis 5 ans, je pense que ça doit être bénin. Mais je pense que l'avis médical est toujours important.
Est-ce qu'il faut laisser la douleur s'installer? Les gens s'habituent à la douleur, hein, et finalement, leur façon d'accepter leur acceptabilité à la douleur augmente avec le temps.
Je pense qu'il y a douleur et douleur.
Surtout les gens qui ont mal au dos ou au coude.
Ouais, en fait, il y a douleur et douleur. Est-ce qu'on doit laisser la douleur s'installer? Je dirais non. Est-ce qu'il faut forcément s'alarmer si on ressent une douleur? Non plus. La règle de la non-douleur, elle est fausse. On aura mal à un moment donné de notre vie. Mmh. Il faut peut-être juste se poser la question, en fait, quelle place a cette douleur dans ma vie? Est-ce que cette douleur devient invalidante? Est-ce que cette douleur m'empêche de faire les choses que j'aime? Est-ce que cette douleur a un rôle sur mon moral? On le sait aujourd'hui, ça, ce sont autant de facteurs de risque, de passage à la chronicité de la douleur, de passage en dépression, de passage juste à arrêter de faire les activités que je veux. À l'inverse, au moment où je te parle, ouais, j'ai une petite douleur au niveau des cervicales et c'est ok, tu vois, si je dois la coter de 0 à 10, elle est à 1 sur 10. Elle me gêne pas, je la connais, elle est liée à voilà, une entorse cervicale que j'ai eue au rugby il y a 7 ans, bah, je la connais. Elle est là, elle m'accompagnera, elle va pas m'empêcher de vivre et j'ai vécu des belles années sur un terrain de rugby, c'est ok, tu vois. Donc je pense que on peut s'accommoder à des douleurs au même titre qu'on s'accommode à des rides ou à des cheveux blancs. À partir du moment où elles deviennent insupportables ou qu'elles nous minent le moral, qu'elles nous empêchent de faire des trucs, bah ouais, on peut essayer de se bouger le cul pour essayer de changer les choses.
Bon, c'est la rentrée, il y a ce qu'on appelle des sujets qu'on doit traiter à la rentrée, par exemple la scoliose. Scoliose, cartable, là aussi ce sont des sujets sur lesquels la façon de les traiter ont beaucoup évolué ces 20 dernières années. Ouais. Vous, dans l'achat du cartable des enfants, qu'est-ce que vous conseillez?
En vrai, je suis désolé, je vais vraiment casser des reçus là-dessus. La scoliose, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que ça ne vient pas du cartable. Ouais.
Ne va pas aggraver la.
Et le poids du cartable. Je sais que c'est j'ai des gosses, hein. Je ne leur souhaite pas d'avoir des sacs à dos qui leur font mal au dos parce que je ne veux pas que mes gosses souffrent. Mais c'est pas parce qu'ils ont un sac à dos lourd que c'est mauvais pour leur santé. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, la problématique du dos de nos gamins, elle est plus, une fois de plus, d'être assis sur des bancs de l'école toute la journée que de porter un cartable trois fois une demi-heure dans la journée.
On en revient à la sédentarité, quoi.
Exactement. Ouais. Donc en fait, probablement que la meilleure solution pour vos enfants aujourd'hui, elle n'est pas d'essayer d'alléger le cartable, mais plutôt de s'assurer qu'ils aient un espace de jeu qui passe moins de temps sur leur téléphone, parce que ça, c'est un autre problème qui dépasse largement la kiné, mais qui est probablement beaucoup plus profond, de s'assurer qu'ils aient un sport de loisir dans lequel ils soient épanouis, dans lequel ils vont se faire des potes, dans lequel ils vont prendre le goût de bouger, et ils vont avoir la musculature pour encaisser le port d'un cartable. C'est contre-intuitif, hein. On va dire, ouais, il dit n'importe quoi, ce kiné, il dit qu'on peut charger le dos de nos gamins. Je vous dis juste, en fait, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a bien étudié, et les gamins qui portent des sacs à dos lourds n'ont pas plus de scoliose. La scoliose, on sait pas d'où ça vient. Ce qu'on sait, c'est que dans 75% des cas, c'est probablement la génétique. Dans 25% des cas, c'est des cas plus compliqués d'atteinte au niveau du cerveau qui donnent des conséquences scoliotiques.
Les sacs sur le dos, sacs à roulettes, sacs cartables.
Le confort de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant. S'il est bien avec un truc à roulettes, qu'il lui mette des roulettes, s'il est bien porté son sac à dos lourd, qu'il porte un sac à dos lourd. Je pense que à mon sens, c'est un peu un faux sujet de la rentrée. Désolé, hein.
Ouais. Donc faites ce que vous voulez, prenez le cartable qui vous plaît.
Ouais, prenez le cartable qui vous plaît, à vous, à votre gamin, et le sujet, il est ailleurs.
Finalement, ça changera rien.
Non, ça changera pas grand chose.
Bon, le grand guide majeur mouvement, on est en train de le feuilleter ce matin, le grand guide majeur mouvement pour soigner vos douleurs, c'est chez Marabout, et vous pourrez poser vos questions à Grégoire dans un instant au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Grégoire, alias Major Mouvement, est notre invité aujourd'hui, kinésithérapeute, et vous publiez aujourd'hui votre nouveau livre, s'appelle Le Grand Guide Major Mouvement pour soigner vos douleurs, chez Marabout. Alors, il y a des pathologies sur lesquelles tout a beaucoup changé, notamment les tendinites ces 20 dernières années, mais il y a plein d'autres pathologies qui ont beaucoup évolué.
Oui, la tendinite, je pense que c'est vraiment une idée forte où pendant longtemps on disait si t'as une tendinite, il faut te reposer, t'étirer, mettre du froid. C'est le tendon qui a été trop sollicité. Aujourd'hui, on sait que la tendinite, c'est principalement t'as fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'était pas entraînée à encaisser aussi fort, aussi vite, aussi longtemps. Mmh. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que du coup, si tu prends quelqu'un qui est complètement sédentaire, qui a fait du jardinage tout le week-end alors qu'il n'est pas habitué à ça, il peut se faire une tendinite. Si tu prends un sportif de haut niveau qui augmente sa contrainte d'entraînement pour répondre à une échéance sportive, il peut se faire une tendinite. J'ai fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'était pas entraînée. Maintenant, toutes les tendinites ne se valent pas. Tu vas avoir classiquement la tendinite d'Achille, tu vas avoir la tendinite de genou, tu l'as évoqué là un peu en off, séquelles d'Osgood-Schlatter, syndrome rotulien, syndrome de l'essuie-glace, tout ça. Ok ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui ?
Syndrome de l'essuie-glace, pour tout le monde, c'est mon préféré.
Pourquoi ?
Ah, mais j'aime bien.
Ah, tu l'aimes bien,
ouais.
Ah, c'est la douleur sur la face latérale du genou, qui porte aussi le nom de syndrome du fascialata ou syndrome de la bandelette iliotibiale. Ce que j'explique aussi dans le bouquin, c'est qu'on aime bien donner trois noms compliqués pour parler de la même chose.
C'est celui qui t'empêche de faire plus de 3 km quand tu cours.
Exactement, exactement. C'est celui qui vraiment, au bout de 3 km, boum, tu peux plus. Donc c'est de comprendre qu'en fait, aujourd'hui, sur un tendon, c'est ce que j'expliquais beaucoup dans le premier livre, sur la théorie. En gros, un tendon, aujourd'hui, quand il te fait mal, le premier truc à faire, c'est gérer cette contrainte mécanique, l'adapter. T'as fait trop vite, trop fort, c'est ok. Pendant 3-4 jours, tu vas faire un repos relatif. Et après, tu vas faire du renforcement spécifique des tendons autour et de lui-même. Parce qu'en fait, comprendre la cellule musculaire, comprendre le tendon, c'est quoi ? Quand tu fais du sport, tu pètes une partie de tes fibres musculaires. Pendant la nuit, et en fonction de ce que t'as bouffé, elles vont se reconstruire pour être plus fortes, plus endurantes et mieux répondre à la contrainte mécanique et au sport.
Le corps se répare la nuit.
Exactement, ouais. Le corps se répare la nuit, d'où l'importance du repos et d'où l'importance de la bouffe. Maintenant, si jamais tu fais trop fort, tu t'entraînes trop, eh ben, il a pas le temps de se réparer. C'est littéralement comme si tu faisais un chantier à la maison, que t'enlèves tout le gravat, t'enlèves tout le gravat, t'enlèves tout le gravat,
ouais.
Mais que dès que tu commences à poser des briques, ben, tu renlèves les briques que t'as posées. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un vrai consensus, c'est soyons progressifs. C'est bête comme le jour et pourtant, ça fonctionne bien.
3 jours de repos et après, on renforce.
Et après, on renforce progressivement.
Malika, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Malika.
Bonjour, Malika.
Merci beaucoup.
Ah, ça va.
Alors, quelle est votre question, Malika ?
Alors, moi, j'ai des douleurs.
Ouais.
Très, très fort, on va dire 9 sur 10. Mmh. Donc, j'ai des douleurs. Et je suis pliée à deux, je ne bouge plus. Pour ne pas avoir plus de mal.
Ouais.
J'ai même pas le temps de prendre quelque chose pour soulager ma douleur. Le problème, que quand je vais en urgence, scanner, prise de sang, ils me disent que j'ai rien.
Alors quand vous dites douleur, est-ce que vous pouvez préciser peut-être, Malika, où vous avez mal?
Oui, j'avais mal au niveau de la poitrine. Parce qu'avant, j'ai travaillé comme aide-soignante. J'étais aide-soignante à l'hôpital. Et j'ai porté beaucoup. Quand j'arrivais à la retraite, avant la retraite, j'avais une pneumopathie. Et depuis que j'étais malade, et j'ai toujours cette douleur-là.
Et cette douleur-là, elle est à 9 sur 10 en permanence, Malika ?
Oui, oui. 8, 9.
D'accord.
Et okay. Je ne bouge plus.
Ok.
Je reste pliée en deux.
Ok. Alors, en fait, là, moi, ce qui va m'intéresser, Malika, on va reprendre un peu cet arbre décisionnel, à savoir, en fait, moi, je veux m'assurer que ce soit rien qui craigne une douleur à la poitrine, vive et intense. Waouh ! Il faut, en effet, immédiatement avoir un avis médical. Ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être quelque chose de compliqué. Donc, en effet, aux urgences, ils ont fait ce qu'il fallait.
Excusez-moi, j'ai fait tout, j'ai fait radio, j'ai vu un spécialiste pour le cœur, j'ai rien.
Exactement, ça c'est le principal. On a éliminé ce qui faisait peur, parce que quand on a quelqu'un qui vient nous voir avec une douleur antérieure de poitrine, waouh, c'est pas un kiné qui doit le voir, c'est un médecin.
Là,
on a
Malika, fait les. Tu dis ce qui fait peur, tu dis pas ce qui pue.
Exactement. Ah oui, pour Malika, je suis plus poli. Quand on était tous les deux.
Je vois que avec Malika, tu prends des gants.
De faveur. Mais et donc en fait, aujourd'hui, maintenant, on est sur autre chose. Comprendre que l'intensité de la douleur que vous ressentez, Malika, n'est pas en lien avec un danger immédiat. Donc ça veut dire que l'intensité de la douleur que vous ressentez n'est pas en lien avec un problème cardiaque, n'est pas en lien avec un problème pulmonaire. Évidemment, on est d'accord, il faut un avis médical. Là, moi, je vous dis, on prend le cas typique où vous avez vu tous les médecins, tous les spécialistes, et ils vous donnent le feu vert de vous dire, OK, nous, on sait que les poumons sont sains, on sait que le cœur est sain. OK, bah là, moi, si vous veniez me voir, je vais regarder. OK, est-ce que cette douleur, est-ce que c'est une douleur intercostale? Les muscles entre les côtes qui peuvent parfois faire mal. C'est assez rare. Ça doit m'arriver peut-être 2 à 3 fois par an d'avoir des patients comme ça. L'intensité de la douleur à 8, 9 sur 10. C'est peut-être le cas. Ça peut être un spasme musculaire. Le fait que vous me disiez ce soit en permanence, bon ben on pourrait aller regarder les cervicales. Ça peut être parfois une petite irritation d'un nerf qui sortirait au niveau des cervicales ou au niveau des thoraciques qui pourrait nous donner une douleur antérieure de poitrine. J'irai investiguer. Là, on sort un peu des sentiers battus. Vous savez, je vous ai posé
donc
la question.
On n'est pas au plus simple.
On n'est pas au plus simple. On n'est pas au plus simple. Déjà, une douleur antérieure de poitrine, ça nécessite un avis médical. Quand vous vous rappelez, Malika, j'avais dit dès le départ, on part du principe qu'un truc est simple et en fonction de la gueule que ça a, si jamais ça répond pas à quelque chose de simple, ça peut être compliqué. Maintenant, l'intensité de votre douleur, c'est clairement pas ce qui m'alarme. C'était la localisation de votre douleur antérieure de poitrine. J'ai besoin d'un avis médical. L'avis médical dit c'est OK. Maintenant, ça vaut le coup d'aller chercher. Mais je ne suis pas inquiet par cette douleur de 8 à 9 sur 10, Malika. C'est pas quelque chose qui m'inquiète.
Bon, et Malika, quand vous avez mal, qu'est-ce que vous faites alors?
Je ne bouge plus.
Et ça va mieux quand vous bougez plus?
Je ne bouge plus et j'attends que ça se passe, mais c'est très, très, très douloureux.
Et ça passe au bout de combien de temps, Malika?
C'est désagréable pendant 10 minutes.
Ça ressemble à un spasme musculaire.
Des fois, même quand je dors la nuit, je le sens arriver, je me réveille, je m'assois, je me plie en deux. Et j'attends que ça se passe.
Et ça passe.
Oui, ça passe.
Ouais. Et ben,
et quand ça passe, je suis soulagée.
Bah voilà, je pense, Malika. Alors, oui. C'est intéressant, mais mon diagnostic dans votre cas, ok, on a éliminé ce qui pouvait craindre un petit peu. Deux grandes hypothèses, soit un spasme intercostal qui peut donner cette douleur-là, un peu comme une sorte de point de côté, douleur antérieure de poitrine entre les côtes qui fait très très mal et qui peut faire peur si jamais on pense que c'est un problème cardiaque compte tenu de vos antécédents. Soit peut-être même d'un point de vue émotionnel, on peut avoir des petites crises d'angoisse qui passent en fonction de ce qu'on a vécu dans notre vie qui peut nous donner ce type de douleur-là. Ouais. Mais l'intensité de la douleur ou le schéma, moi, ne m'inquiète pas.
Bon, on parle d'hypothèses, hein, Malika.
Oui, c'est voilà. Des hypothèses.
C'est pas des consultations au téléphone, mais voilà l'approche que Grégoire a par rapport à ce que vous décrivez, vous, comme symptômes.
Voilà, et on est sur des trucs assez spécifiques.
Et on vous fait un gros bisou, Malika, 01-53-48-3000. Si vous voulez poser vos questions à Grégoire, 55 douleurs dans votre livre. Alors, il y en a une qui m'intéresse, c'est l'aponévrosite plantaire.
Oui.
La fameuse aiguille sous le pied.
Épine sous le pied, ouais. Très fréquente qu'on va retrouver chez deux types de populations. Là aussi chez certains sportifs, mais plus fréquente chez les gens plutôt en surpoids qui vont se réveiller le matin et le premier pied qu'ils posent au réveil, ils prennent une décharge sous le talon. Et donc là, souvent, ce qu'on va leur faire, c'est une radio. Et qu'est-ce qu'on trouve à la radio? Une épine calcanéenne, en gros, une calcification d'une partie de l'os sous le talon. Et on leur dit, c'est ça qui fait mal. Et puis c'est logique parce qu'on le voit à la radio.
Mais avant, on cassait.
Et avant, on cassait.
Et donc?
Et en fait, ça changeait pas grand-chose. En fait, on se rend compte aujourd'hui que probablement ce qui fait mal, c'est de considérer, c'est ce que j'explique dans le bouquin, ce fascia plantaire. Vous l'imaginez, ce fascia plantaire, c'est un peu comme le filet d'une raquette de tennis, ok? Et ben, vous imaginez que ce filet, avec le temps et avec une augmentation des contraintes dessus, il devient plus sensible, un peu plus douloureux. Et ben, ce qui marche le mieux, c'est de retendre le filet. Ce qui marche le mieux, c'est du renforcement des muscles des pieds. On peut l'associer à du neurodynamique. Hyper intéressant.
Alors,
Philippe.
Neurodynamique, il y a deux choses. En quoi est-ce que la neurodynamique a-t-elle changé votre vie, ta vie et la vie de beaucoup de gens?
La neurodynamique, neuro pour nerf, dynamique pour bouger le nerf. Ce qu'on sait aujourd'hui, accrochez-vous, c'est hyper intéressant. On peut avoir des douleurs au niveau de la cheville, du genou, de la hanche. On pense que c'est les tendons, or c'est les nerfs. On peut avoir des douleurs au niveau de la main, du poignet, du coude, de l'épaule. On pense que c'est les tendons ou les articulations. Or, c'est les nerfs. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Quand c'est le nerf qui fait mal, on met en tension le nerf. Si quand on met en tension le nerf, ça reproduit les symptômes, il y a de fortes chances pour que ce qui fasse mal, ce soit le nerf. Est-ce que je vous conseille de faire ça tout seul? Non. Est-ce que je vous conseille d'aller voir un professionnel de santé pour qu'il fasse avec vous? Oui. Est-ce que dans le bouquin, je vous montre comment est-ce qu'on fait pour mettre en tension les nerfs et possiblement pour les traiter? Oui. Et là, encore une fois, ce même principe de essai-erreur. Quand j'essaye, est-ce que ça me fait du bien? Oui, auquel cas, j'y vais tranquillement et je le fais progressivement avec un avis médical, évidemment. ou est-ce que quand je le fais, c'est pire? Ok, ça veut dire que c'est probablement le problème et qu'on va le traiter ensemble. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tant qu'on n'a pas mis en tension le nerf, on n'est pas capable de savoir ce qui nous fait mal, c'est le nerf. Le nerf sciatique, avec les fameuses sciatiques et les sciatalgies, qui peuvent créer des douleurs dans le haut de la fesse, dans la fesse, derrière le kyste, derrière le genou, dans le mollet, et devine-nous, dans le fascia plantaire. Le nerf crural, avec cette douleur sur la face latérale de cuisse, sur la face antérieure de genou, sur la face interne de genou, et sur la face interne de pied, même parfois dans les parties génitales. Ça, c'est pour le membre inférieur. Je vous explique dans le bouquin comment le tester, comment le traiter et qui aller voir en cas de douleur.
Et la même chose. C'est vrai que ce sont des zones où il y a beaucoup de douleurs qui peuvent se ressembler, mais qui ne sont pas exactement les mêmes.
Exactement. Parce qu'en fait.
Autour de la fesse, par exemple.
Exactement.
Tout n'est pas sciatique.
Tout n'est pas sciatique. On peut avoir ce même type de névralgie, donc névralgie, douleur du nerf, algique douleur du nerf, qu'on peut retrouver dans le membre supérieur et au niveau des cervicales. Combien de personnes sont persuadées d'avoir une tendinite d'épaule alors qu'en fait, ils ont une irritation d'un nerf qui sort des cervicales et qui donne le même tableau douloureux au niveau des épaules? Tant que tu n'as pas éliminé l'origine cervicale de ton problème d'épaule, je n'ai pas la moindre foutue idée de savoir si ton problème d'épaule est vraiment un problème d'épaule. Raisonnement clinique.
Les ULNT, qu'est-ce que c'est, Shkoun?
Upper Limb Neural Test, c'est de
alors,
l'anglais.
En français, si tu veux bien.
Mise en tension des nerfs du membre supérieur.
C'est des tests.
C'est des tests.
Ouais. Quatre.
Quatre tests ouais. Pour tester les nerfs qui viennent du bras, qui partent des cervicales et qui donnent des douleurs dans le bras. Je les montre, c'est du contenu un peu technique. Vraiment.
Qu'est-ce que ça donne comme information?
En gros, ce que tu as, c'est que quand un patient vient te voir et te dit « j'ai une douleur dans le bras », je vais mettre en tension ses nerfs et je vais être capable de savoir si la douleur, elle est liée à un problème local, de poignet, de coude, ou est-ce que c'est un problème à distance. C'est pour ça qu'on dit souvent le tout est lié. Est-ce que c'est un problème des cervicales qui irradie au niveau du poignet? Ce que j'explique dans le bouquin, c'est que quand vous avez un embouteillage, vous arrivez le dernier de la file dans l'embouteillage, est-ce que le problème de l'embouteillage, c'est la voiture qui est devant vous, ou est-ce que c'est l'embouteillage lié à un accident qui est 25 voitures plus loin? C'est ça ce qu'on appelle une douleur irradiante. L'origine de la sortie du nerf, vous imaginez votre colonne vertébrale, vos nerfs ils sortent au niveau de la colonne vertébrale, et bien la douleur, vous pouvez la ressentir trois articulations plus loin, c'est normal, tout est lié. Quand vous mangez et quand vous chiez, ça sort pas par le même orifice. Normalement.
Je vous laisse imaginer. Ça, c'est ma jambe mouvement. Hein. Quand on fait des vues... Hein. Bien, je voulais qu'on termine sur la capsulite.
Ouais.
La capsulite, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur la capsulite. Alors, la capsule, c'est quoi?
La capsule, c'est un manchon fibreux, c'est un sac plastique autour de toutes nos articulations. C'est ce qui permet la bonne vie des nutriments autour d'une articulation. Ça crée un milieu fermé.
Ouais.
Il arrive principalement chez les... ça a été remis en question. C'est pas plus chez les femmes. Chez les femmes et chez les hommes, autour de 55 ans et qui souffrent en même temps... de diabète. Gros facteur de risque du diabète sur les capsulites rétractiles. Bref, on a une inflammation de cette capsule IT, et c'est comme si au lieu d'avoir un t-shirt en M, si vous faites du M, vous mettiez un t-shirt taille 8 ans. En fait, vos articulations vont se bloquer de l'intérieur. Ça fait très mal et vous pouvez plus bouger l'épaule. Première chose à faire, vous consultez un médecin généraliste. Aujourd'hui, des grosses recommandations, c'est de détecter cette capsulite dans les 6 premières semaines et de faire une infiltration. Merci beaucoup.
D'abord, en première intention.
En première intention, c'est l'infiltration. Ouais. Là, on sait que c'est ce qui fonctionne le mieux pour faire de la distension de la capsule. Et dans un second temps, de faire de la kiné. Et chose surprenante, de faire de la kiné dans la douleur. On a des meilleurs résultats chez des patients à qui on va venir chercher la douleur alors que ça fait déjà atrocement mal que chez des gens à qui on dit surtout ne bougez pas.
Bon, le livre sort aujourd'hui. Montre-le à la caméra, l'émission est filmée. Le grand guide majeur mouvement pour soigner vos douleurs chez Marabout.
55 pathologiques, vous serez peut-être, je ne vous le souhaite pas, amené à croiser dans vos vies avec des traitements simples et vous savoir quand il faut consulter, quand il est nécessaire.
Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube de beurrefm. On vous retrouve sur vos réseaux d'ailleurs. Hein.
Exactement, majeur mouvement, Instagram, YouTube. Merci beaucoup pour ton invitation, Philippe. Merci à tous pour l'accueil que vous m'aviez réservé pour le premier livre et merci à tous.
Ça va être encore mieux pour le deuxième et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.